Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, c'est Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Comme tous les jours, il est à mes côtés pour prendre soin de vous, vous faire du bien s'il le faut. C'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Alors dans notre grand dossier du jour, nous allons nous intéresser à la famille aujourd'hui. C'est quoi une famille? Toutes les familles se ressemblent-elles? Quels sont les rôles et places de chacun au sein de celle-ci? Savez-vous ce qu'est une bonne maman ou un bon papa? À quoi ça sert un grand frère ou une grande sœur? On va revenir aux bases cet après-midi avec des explications pour les petits et les grands. Pour en parler, nous recevrons le professeur Marie-Rose Moreau. Elle est pédopsychiatre et elle vient de publier un livre magnifique sur ce sujet. Quand ça va pas, leur famille expliquée aux enfants et aux parents chez Glénat Jeunesse. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, on va s'intéresser à votre sommeil et plus précisément à l'insomnie. Savez-vous vraiment ce que c'est? À partir de quand on considère que cela devient un problème chronique? Et surtout, quels sont les traitements les plus efficaces contre l'insomnie? Le docteur Jimmy Mohamed essaiera de ne pas nous endormir, mais nous dira tout sur le sujet. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle nous parlera de séparation. À partir de quand, dans un couple, peut-on, doit-on vraiment considérer qu'il est temps de se quitter?
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer cette émission par cette question d'Alexandre. Écoutons-le.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors, moi, j'ai une petite question. J'ai un petit bouton sur le nez qui part et il vient en permanence. J'ai essayé de le percer, mais il y a juste un petit peu de sang, sinon il n'y avait rien dedans. Et ma mère m'a dit que je devais le montrer à un dermato pour voir si j'avais pas un cancer de la peau. Mais c'est pas possible d'avoir un cancer de la peau aussi jeune, surtout de la peau du nez, c'est pas possible.
C'est une bonne question, on va voir ça, Jimmy. Un petit bouton qui guérit pas, qui saigne un peu sur le nez. Est-ce que ça pourrait être, enfin moi j'imagine que oui, un cancer de la peau, ça peut être partout. Hein.
Oui, j'ai envie de vous dire oui, ça le poussera à non pas faire de la radioconsultation, mais une téléconsultation avec un dermatologue. Il faut bien comprendre que si on prend l'exemple du carcinome basocellulaire, pardon, c'est un des cancers cutanés les plus fréquents. Un des premiers signes évocateurs, c'est l'apparition ou la modification d'une petite excroissance de la peau, ou bien une petite plaie qui saigne et qui ne guérit pas. Donc évidemment que si ça traîne, si ce petit bouton qui ressemble à pas grand-chose, eh bien spontanément ne s'améliore pas, direction le dermatologue.
Parce que lui dit donc petit bouton, pas cancer, ce qui n'est pas forcément vrai, mais là il décrit surtout le nez, il dit on peut avoir un cancer sur la peau du nez, moi j'imagine que oui, c'est un endroit qui est très exposé justement au rayonnement solaire.
Hein, et oui, et voilà. Si on reprend ce carcinome basocellulaire, dans 80% du temps, il va apparaître sur le visage et sur le cou, donc sur des zones exposées. Et si on s'intéresse aux autres types de cancers, notamment le mélanome, eh bien toutes les parties du corps peuvent être touchées. Chez la femme, ça va être un peu plus les jambes, l'homme, le tronc, mais aussi des zones un peu plus cachées, notamment par les poils. Ça peut être derrière les oreilles, au niveau du cuir chevelu, même entre les orteils, même entre l'arrêt des fesses. C'est pour ça qu'on vous dit d'aller voir.
Et les dermatos, ils regardent même de ce côté-là.
Exactement.
Hein, c'est pour ça, bien sûr. Quelle que soit la zone du corps concernée, Jimmy, c'est quoi les signes qui doivent alerter? Comment savoir si on a donc une tache, un bouton qui doit être montré à un dermato?
Dès que vous avez un truc qui vous paraît suspect, allez-y. Je pense qu'il vaut mieux consulter par excès que par défaut, d'autant plus dans cette période où il y a...
Que ce soit à cause de la couleur, de la
Exactement.
Forme...
Alors il y a une règle toute simple, ouais. Hein, c'est la règle ABCDE, que j'aime pas beaucoup, parce que vous n'avez pas normalement à faire ce genre de choses, c'est au docteur de le faire. A, c'est pour l'asymétrie d'une lésion. S'il est impossible de recouvrir la moitié de la lésion avec l'autre moitié, c'est que c'est asymétrique. B, c'est des bords qui vont être irréguliers. C, une couleur inhomogène. D, le diamètre, c'est 6 mm. Et E, c'est l'évolution. Tout ce que vous devez retenir, c'est dès que vous avez une nouvelle lésion ou une lésion qui change un peu d'aspect, allez voir le dermato.
Très bien. Et d'ailleurs, qui dit cancer de la peau, dit pas forcément qu'on va aller partir pour des mois de chimio, de lourds traitements. Parfois, la chirurgie suffit. C'est pas toujours le cas, mais ça peut. Hein.
Elle peut être largement suffisante, notamment quand on fait un diagnostic précoce. C'est pour ça qu'on vous tanne
le
et qu'on vous saoule d'aller
mieux.
Voir le dermatologue
allez-y.
Chaque été, chaque fois, pour vérifier qu'il n'y a rien de particulier, car le diagnostic précoce est le meilleur des traitements. Et puis surtout, la meilleure des préventions, c'est attention au soleil. Donc quand il va commencer à refaire beau, mettre des lunettes de soleil pour les yeux, mais aussi une crème solaire. On évite d'exposer les enfants aux coups de soleil, car c'est comme ça qu'on évite les problèmes.
Très bien, merci beaucoup Jimmy. On va prendre une seconde question, celle de Ella, qui nous a appelé de Metz.
Bonjour Jimmy, bonjour Mélanie. Ma fille de 2 ans tousse et a le nez qui coule depuis 2 jours avec un peu de fièvre. Alors son pédiatre pense que c'est une simple rhino, mais moi j'ai peur que ce soit le Covid quand même. Pour la faire tester à cet âge-là, est-ce qu'on est obligé de leur faire le test avec le coton-tige dans le nez? Moi je trouve que c'est un peu hard, aussi jeune. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Merci d'avance.
Alors Jimmy, c'est une bonne question, on en a beaucoup dans ce sens en ce moment. Un nez qui coule chez un bébé, chez un grand aussi, en ce moment ça doit faire penser quand même au Covid. Hein.
Ouais, systématiquement. Rappelez-vous, après la première vague, on disait que non, vous inquiétez pas, une simple rhinite n'est pas du Covid. Alors soit on s'est trompé, c'est possiblement ça, soit le virus a évolué, notamment avec les variants qui sont beaucoup plus contagieux. Et c'est peut-être ça qui fait qu'on a des personnes de plus en plus jeunes en ce moment. Et effectivement, un nez qui coule simplement chez un enfant peut-être du Covid, jusqu'à preuve du contraire. Et donc, il faut faire un test
et alors,
pour être sûr qu'on va pas
transmettre la maladie. On fait quoi comme test à 2 ans? Parce qu'elle dit, est-ce qu'on est obligé de mettre le coton-tige dans le nez?
Alors, normalement, les tests désormais peuvent être faits en salivaire. C'est-à-dire qu'on ne met plus le coton-tige au fond des fosses nasales.
On juste peut dans le faire les joues, dans la gorge.
Les joues. Ouais. Alors, tous les centres ne le font pas. Et c'est un vrai problème. Tous les laboratoires
avant, ouais.
ne jouent pas le jeu. Et ça, c'est lamentable. Et puis, les pharmacies, parfois, ne le font pas parce qu'ils n'ont pas le matériel nécessaire et on ne le fait pas en test antigénique. Moi, ce que je fais, c'est que je me suis adapté à la vraie vie. C'est que lorsque je dois faire un test antigénique à un enfant avant d'éventuellement faire un test PCR, eh bien, je le fais justement à l'entrée du nez. J'essaie de choper des crottes de nez. C'est mieux que rien. Mais oui, mais c'est aussi la vraie vie, ça. Hein. C'est de se dire, on fait plusieurs tours et on évite de traumatiser l'enfant. Et si jamais on a un doute, évidemment, on fait une PCR pour confirmer tout diagnostic douteux. Car finalement, on a besoin d'avoir une.
Juste
une
un mot
PCR.
Rapide, Jimmy, les autotests en pharmacie dès le 12 avril, soi-disant, ça va être un plus.
C'est un plus, mais ce n'est pas l'alpha ou l'oméga. Rappelez-vous, on avait beaucoup d'espoir sur les tests antigéniques. On nous avait dit que ça nous éviterait une troisième vague. Ça ne nous a pas évité une troisième vague. C'est une autre façon de gérer la vie et d'apprendre à vivre avec le virus, car on ne va pas s'en débarrasser tout de suite. Et donc, peut-être qu'on peut imaginer, avant d'aller au restaurant, avant de se réunir, faire des tests plutôt que pas de tests. Mais encore une fois, il ne faut pas tout miser nos espoirs dessus.
Très bien. Merci beaucoup, Jimmy. Si vous aussi voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, c'est donc au 39-21 que ça se passe.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons accueillir notre invitée pour le dossier du jour. C'est la pédopsychiatre Marie-Rose Moreau qui vient nous parler des familles, au pluriel. La famille, c'est important pour chacun d'entre nous, mais il y a aujourd'hui tant de façons de faire famille. Quel est le rôle et la place de chacun? On va vous détailler tout ça dans quelques minutes. Restez bien avec nous sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé, Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors accueillons tout de suite notre invitée pour le dossier du jour. C'est vous, professeur Marie-Rose Moreau. Bonjour.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Vous êtes professeure de psychiatrie de l'enfant à l'Université de Paris. Vous dirigez également la Maison de Solène, Maison des adolescents de l'hôpital Cochin à Paris. Et aujourd'hui, vous venez nous présenter votre livre « Quand ça va, quand ça va pas », leur famille expliquée aux enfants et aux parents, qui est paru donc chez Glénat Jeunesse. C'est un très joli bouquin avec de belles illustrations. Pour nous éclairer sur ce beau sujet, hein, là, les familles. Professeur Moreau, c'est un sujet un peu casse-gueule quand même, hein, parce qu'il y a un côté un peu politique aussi. Pourquoi vous avez souhaité, vous, écrire sur ce thème ?
Alors, j'ai souhaité écrire sur ce thème, avec ces belles illustrations, effectivement, parce que c'est tellement important, la famille. Aujourd'hui, on s'en rend compte encore plus que jamais. Alors, bien sûr, dans la littérature, on dit « famille, je vous hais », on parle des difficultés, et il y en a. Mais en gros, les familles, c'est les solutions qu'on a trouvées, en fait, aujourd'hui comme hier. Pour être ensemble, pour se protéger, pour faire grandir les enfants, pour organiser la vie ensemble. Donc la famille, c'est quelque chose de précieux. Mais alors moi, ce qui m'intrigue aussi beaucoup, c'est que aujourd'hui, encore plus qu'hier, il y a une variété de familles. C'est-à-dire qu'en fait, on fait famille de manière différente, souvent autour des enfants. Et alors il y a bien sûr des traditions. Il y a des manières différentes. Il y a des familles où il y a plusieurs mères, plusieurs pères, des familles où les enfants circulent. Il y a des familles très étroites, puis il y a des grandes familles. Enfin, il y a, en fait, tout ce qu'on peut imaginer comme système familial, ça existe. Et donc, l'importance de la famille dans la vie des enfants et dans la vie tout court des personnes est tellement grande que je me suis dit... Les enfants posant souvent énormément de questions en consultation. Pourquoi dans ma famille c'est comme ça?
C'est pas comme chez le voisin.
Et voilà. Et pourquoi telle chose est différente? Et pourquoi cette petite là, elle a plusieurs papas, etc. Que je me suis dit, il faut mettre ces questions et puis ce que l'on sait des familles et de leur importance au service de tous les enfants et des adolescents.
Et du coup, c'est important que les enfants ou les adolescents s'emparent aussi de ce sujet de la famille, même quand la leur est pas forcément équilibrée. Ça leur permet de quoi ? De rétablir le dialogue pour peut-être s'y sentir un peu mieux dans leur famille ?
Oui, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que plus on sera capable de parler aux enfants et aux adolescents, hein, parce que pour les adolescents, les familles, même si on essaye de s'en éloigner, c'est très important. Si on peut leur parler, y compris des choses quand ça va pas, justement, hein, des choses qui ne vont pas, et des choses qui appartiennent aux adultes, des choses qui posent problème, des choses qui les font souffrir, parfois des choses banales comme la rivalité entre frères et sœurs, et puis parfois c'est des choses beaucoup plus importantes, comme des organisations familiales qui sont différentes. Ou alors des enfants qui, à l'intérieur d'une famille, vont se sentir abandonnés, par exemple. Donc, c'est vraiment très important de mettre, d'abord, de partager ces informations et puis de leur permettre de comprendre ce qui se passe pour qu'ils aillent mieux et pour qu'ils trouvent la force finalement d'accepter et de se laisser protéger par la famille telle qu'elle est.
Alors, professeur Moreau, on va reprendre du début. Comment on explique aux enfants et donc aux adolescents ce qu'est une famille ? Est-ce qu'il y a une définition ? Parce que vous avez dit des familles, il y en a autant qu'on imagine. C'est quoi une famille si on doit définir ça ?
Alors, vous savez que des définitions, j'en ai cherché, il y en a à peu près 400-500 des définitions.
On va résumer tout ça.
Alors moi, la définition que j'aime bien, parce qu'elle correspond à la vie quotidienne, c'est les personnes, enfants et adultes, qui sont autour de moi. Hein, quand je parle...
De
je
moi, c'est un enfant. Quoi,
un enfant, un ado. Voilà. Et bien, autour de moi, il y a une constitution d'une famille, d'un groupe.
Ce n'est pas forcément les liens du sang, hein, d'ailleurs.
Ah
c'est
non,
ça,
non, ouais. Non, bah, bien sûr. Les liens du sang, c'est qu'une manière de faire famille. Il y a plein d'autres manières qui sont des manières culturelles, qui sont des manières des circulations. Les enfants vont d'un groupe de famille à un autre.
Et mais on peut en avoir plusieurs, d'ailleurs, de familles. Un seul individu peut avoir plusieurs familles.
Hein. Il peut avoir plusieurs familles, mais il faut qu'il y ait des liens entre ces groupes, entre ces familles. Mais oui, bien sûr, on peut avoir plusieurs familles. Donc, c'est comment on fait autour d'un enfant et d'un adolescent.
Mais du coup, c'est par exemple pourquoi mes amis très proches, mes enfants les appellent tontons. En fait, on n'a pas de lien de sang, mais mes amis, voilà, mes meilleurs amis...
Vos enfants, ils ont déjà compris ça sans vous.
Ils ont bien compris.
Et moi, je les présente comme tonton, Jean-Louis, tonton, voilà, parce que finalement, on n'a pas de lien du sang, mais on a créé une famille, en fait. Donc, il faut expliquer ça aussi aux enfants.
Alors, ça, c'est même une manière traditionnelle. Ce qui est intéressant, en plus, c'est que quand on fait varier un petit peu notre regard dans le monde, ce qu'on a fait parfois dans ce livre aussi, eh ben, on se rend compte que ça existe. Effectivement, ceux qui sont à ma génération, moi, admettons, moi, enfant, ceux qui sont à ma génération, je peux les appeler frères et sœurs. Éventuellement cousins quand ils sont très très loin, mais c'est la génération frères et sœurs. Et ceux qui sont dans la génération de mes parents, c'est effectivement la génération oncle et tante. Ceux qui sont à la génération de des grands-parents, des parents de mes parents, eh bien à ce moment-là, ils vont tous être appelés grand-père ou grand-mère. Donc ça, c'est une manière de désigner ceux.
Et c'est
une
manière. C'est pour ça que vos enfants, quand ils voient des personnes âgées dans la rue, c'est toujours papy, mamie, quoi.
Mais c'est une manière très intuitive.
Ouais, vrai,
mais
hein.
Simplement, anthropologiquement, ça existe. Il y a plein d'endroits où on fait comme ça. Nous, on ne fait pas forcément comme ça, mais quand on constitue, par exemple, lorsqu'il y a des remariages, eh bien, on cherche toujours un nom pour désigner, par exemple, celui qui vit avec la maman ou celui qui vit avec le papa. On va essayer de trouver un nom, mais un nom qui soit un nom générationnel, qui n'est pas forcément maman-papa, mais qui dit qu'on est à cette génération-là.
Une grande question que peuvent nous poser nos enfants quand on parle de famille, hein, c'est finalement comment on les a fait eux, comment on fait les bébés.
Bien sûr.
Vous dites dans le livre, le coup dans le chou, ça ne marche plus aujourd'hui. Hein. Comment on leur explique ça aux enfants ?
Donc, dire des choses trop simples. Alors, au tout petit, on peut toujours imager oui. En disant une petite graine, une petite fleur. Mais au tout petit, et très vite, ça va être dépassé. Parce qu'il y a beaucoup d'informations, mais aussi parce que ça correspond pas toujours à l'image d'aujourd'hui. Alors, comment on fait un enfant ? Eh bien, c'est la rencontre, non pas seulement entre un homme et une femme, hein, puisqu'on peut faire un enfant aussi, une femme avec...
Deux hommes,
oui, et puis...
Il y a des mères porteuses, il y a plein de
voilà,
façons de faire.
Et on peut faire venir la deuxième partie qui va faire l'enfant, donc qu'on va appeler sperme quand c'est par... définition. Cet homme et cette femme, il y a plusieurs manières de faire la rencontre, mais il faut qu'il y ait une rencontre. Et quand la rencontre a lieu, biologiquement, effectivement, ça fait des enfants qui vont grossir dans le ventre des femmes.
Ouais, c'est possible, donc ça.
Ouais,
c'est compliqué
quand même. Hein, mais bon, on a reste des une opération belle et compliquée, mais il ne faut pas la simplifier quand même.
On arrête le chou. Très bien. Professeur Moreau, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien avec nous.
Europe.
Dans ce rendez-vous, nous allons continuer ce point très complet sur là où les familles. D'ailleurs, c'est quoi être parent en 2021 ? On va commencer par ça peut-être. C'est quoi même être une bonne maman ou un bon papa ? Quel est le rôle des frères et des sœurs ? On va vous décrypter cet après-midi ces choses simples sur lesquelles on s'interroge peu finalement au quotidien, mais qui sont très intéressantes. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans la grande famille d'Europe 1. Notre invité toujours en studio aujourd'hui, c'est vous, professeur Marie-Rose Moreau. Vous êtes pédopsychiatre et l'auteur du livre « quand ça va pas, leur famille expliquée aux enfants et aux parents » qui est paru chez Glénat Jeunesse. Alors, dans ce livre, vous expliquez quel est le rôle et la place finalement des parents, déjà dans un premier temps. Et vous dites que même si les choses ont beaucoup évolué, il faut dire aux enfants que leurs parents ne sont pas leurs copains. Ça, c'est très important parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on joue beaucoup avec les enfants déjà, plus peut-être que nos parents, nos grands-parents. Mais ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est quoi le rôle d'un parent ?
Mais oui, c'est ça. C'est pour ça que moi, je pense aux enfants, il faut leur parler sérieusement, non pas de manière triste, au contraire, on peut faire ça de manière très, très légère et gaie, mais de manière sérieuse. C'est-à-dire qu'on dit, on dit les choses vraies, on dit des choses authentiques. Et effectivement, les générations, c'est-à-dire les enfants et les parents, ils appartiennent à des groupes différents. Alors, il y a plein de liens entre eux. Mais ils appartiennent à des groupes différents. Et ça, c'est important parce que c'est comme ça que se constitue une famille, autour de la notion que chacun, quelqu'un est dans une place d'enfant ou d'adolescent que l'on protège.
Même si on joue au Monopoly ensemble, même si on joue au Lego ensemble, on n'est pas des amis, on n'est pas des copains.
Non, on n'est pas des copains, on est dans le groupe parent d'ailleurs. On est dans le,
et
on
c'est quoi
pas...
un parent, il sert à quoi pour l'enfant ? Comment on lui explique ça ? Si je ne suis pas ton ami, je suis ton...
Je suis celui qui te protège, je suis celui qui te nourrit, celui qui t'apprend des choses. Celui qui vit avec toi et qui t'a donné la vie et qui a voulu que tu sois là d'ailleurs.
Du coup, quand ils sont fâchés, qu'ils nous disent, de toute façon, t'es plus mon copain.
Ah, ça vient.
Ça tombe bien.
J'ai déjà
ça
été ton copain.
Bien, je suis ton père.
Ok, très bien. Alors, vous écrivez que être parent, c'est quelque chose qui évolue avec le temps. C'est vrai que je ne suis pas le même papa de mon petit bébé qui est désormais qui grandit, qui est pas un adolescent, mais qui va pas tarder à l'être. Donc nous aussi, en fait, on grandit, on change.
Ah oui, alors ça effectivement, ça c'est un point important aussi. C'est que on apprend à être parent nous-mêmes. C'est-à-dire que être parent d'un bébé, être parent d'un enfant d'adolescent, c'est pas le même travail, c'est pas la même fonction, c'est pas les mêmes responsabilités. Mais je dois apprendre à le faire. Et c'est vrai qu'entre le premier, le deuxième et le troisième, eh bien, il y a. D'ailleurs, parfois, on dit, il y a des dictons dans plein de monde, dans le monde entier, où on dit, il faut 3 enfants pour faire un parent. Alors peut-être pas 2, ça suffit, mais même 1 d'ailleurs. Mais ce qui est sûr, c'est que on n'est pas le même parent. Et quand les enfants disent, mais t'es pas pareil avec ma grande sœur ou avec mon grand frère, ils ont souvent raison.
Ah oui.
Parce que on sait pas, on sait très bien d'ailleurs que les aînés, on les stimule beaucoup plus que les cadets. Et c'est pourtant on est le même, mais c'est parce qu'on est en train d'apprendre et qu'au fond on en fait un petit peu trop.
Et donc ça, avec le premier,
on en fait un peu trop. Et donc on déborde parce que on est un peu, on cherche aussi parfois.
En fait, on s'améliore peut-être avec le deuxième. C'est
mais
ça.
Et on apprend à trouver notre autorité, ouais. L'autorité qui n'est pas l'autoritarisme qui est fait comme ça, ça marche plus et pas autrement, mais qui est quelque chose qui est à la fois rassurant. Et qui guide.
Alors, dans les parents, il y a souvent une maman quand même. C'est une mission difficile, vous l'expliquez dans le bouquin, hein, être maman. Notamment être maman d'un bébé humain, ça vous l'expliquez bien avec des petits dessins très mignons, notamment avec l'exemple du bébé girafe. Pourquoi c'est si difficile d'être maman d'un bébé humain ?
Mais oui, parce qu'en fait, c'est une caractéristique des êtres humains, c'est que les bébés d'humains, ils naissent, ils ne sont pas finis. Ils sont pas finis. C'est, à la limite, il faudrait.
Le bébé girafe marche très vite. Hein,
mais,
il est debout.
Mais plein les bébés, les veaux, ils marchent beaucoup plus vite.
Les nôtres sont
vraiment. Vous savez que nous, chez les humains, le cerveau, il grandit d'une certaine façon, il mature jusqu'à 25 ans. Vous imaginez le temps qu'il nous faut.
Donc c'est à nous de les terminer une fois qu'ils sont dehors, et c'est pas facile.
Donc quand ils sont dehors, ils sortent. Alors en plus, des fois, ils naissent prématurément. Mais même s'ils naissent pas prématurément, mais il faut leur donner de la chaleur, il faut les rassurer. Ils peuvent être inquiets le soir, ils se réveillent pour vérifier.
Donc parce c'est que normal la première fois de sentir que c'est très très difficile
c'est
comme
très,
rôle.
Ils
hein.
ont une grande responsabilité.
Jimmy, je crois que vous voulez parler des papas. Hein.
Oui, mais qu'est-ce que c'est qu'un bon papa ? Parce que le papa évolue avec le temps, je pense que le papa d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier. Et est-ce que, parce que comment on fait pour être un bon papa en 2021 ?
Ah, vu la recette miracle.
Oui.
D'autant que moi je crois que le rôle des pères a beaucoup plus changé que le rôle des mères ces 20 dernières années. Enfin, cette génération-là. Et effectivement, dans le livre, à un moment, je dis, mais il suffit pas de jouer avec l'enfant pour être son père.
D'ailleurs, les papas qui ne jouent pas, ils ne sont pas forcément des mauvais papas.
Non,
on est d'accord,
voilà, ouais. Exactement. Et être... Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bon papa ? Déjà, ça, la définition, elle vient de nous-mêmes. Hein. C'est pas les autres qui disent qu'on est un bon papa. Mais par exemple, pour être un bon père, il faut aussi que la mère laisse le père jouer ce rôle. Et vice-versa, d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que ça se définit par rapport à nous-mêmes, mais aussi par rapport à l'autre parent. Et un bon papa, c'est quelqu'un qui sait qu'il a une responsabilité de protection et de transmission à l'égard d'un enfant.
Ça me va comme définition, c'est bien.
C'est joli, c'est vrai, elle est tout à fait juste. Dans une famille, on va dire pour l'instant traditionnelle, il y a les parents et les enfants. Est-ce que les enfants, ils ont un rôle à jouer? Ce livre, il est pour eux. Vous avez expliqué c'est quoi être un bon papa et les missions qu'on a un peu tous, une bonne maman, un bon papa. Mais est-ce qu'il y a un rôle de bon enfant?
Oui, alors, ce livre est pour les enfants et les adolescents, mais aussi pour leurs parents.
Bien sûr, on a essayé, moi j'ai appris des choses.
Oui, mais oui, moi aussi en le faisant. Mais je parle de...
On doit leur mettre cette pression-là, leur dire « t'as un rôle à jouer dans cette famille, un enfant, ça a un rôle à jouer ou juste besoin d'être un enfant tout court quoi.
Bah, Il a, c'est d'abord un enfant avec ses besoins, mais il faut être là aussi sincère. Les enfants, ils ont aussi leur rôle d'enfant à jouer. Et par exemple, entre un aîné, un second, un troisième, c'est pas le même entre les garçons et les filles. Donc en fait, simplement, nous, ce qu'on dit aux enfants dans ce livre, c'est attention, ne cherchez pas à être des enfants trop sages, trop parfaits.
C'est bien d'ailleurs un enfant qui fait des bêtises, vous dites dans le livre.
Oui,
je pense que ça va leur faire plaisir.
Bah oui, mais c'est parce que c'est comme ça. C'est d'abord des enfants, c'est-à-dire qu'ils expérimentent, ils testent, ils doivent trouver l'élan vital, ils doivent avoir envie de vivre et c'est ça qu'on doit leur transmettre.
Très bien, professeur Moreau, ne bougez pas, on va continuer cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1.
Sans rendez-vous, reviens dans un instant, on parle de famille et donc on va s'intéresser forcément en détail aux frères et aux sœurs. Est-on obligé de bien s'entendre? Une grande sœur par exemple doit-elle forcément être une deuxième maman? Comment expliquer aux plus jeunes les familles recomposées? Des choses qui peuvent nous sembler évidentes mais qu'il est bon parfois de décrypter. Restez avec nous sur Europe 1. Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous et elle nous accompagne cet après-midi. C'est vous, professeur Marie-Rose Moreau. Je rappelle que vous êtes professeur de psychiatrie de l'enfant à l'Université de Paris, que vous dirigez également la maison de Solène, maison des adolescents à l'hôpital Cochin à Paris. Alors, on parle de la famille avec vous, avec cet ouvrage que vous avez écrit. Dans une famille, il y a parfois plusieurs enfants. Comment on explique à nos enfants l'importance de leurs frères ou de leurs sœurs quand eux, par exemple, ils voient souvent que jalousie et chamaillerie, faut dire ce qui est.
Oui, de leurs frères, de leurs sœurs, mais aussi de leurs demi-frères qu'ils peuvent avoir, leurs demi-sœurs. Ou même d'autres enfants qui vont arriver à la maison. Alors oui, c'est très important ça, parce que c'est quelque chose en plus qu'ils vont garder toute leur vie. Et les chagrins d'enfants et les rivalités entre frères et sœurs sont parfois très longs.
Vous les entendez en consultation,
oui,
ces plaintes-là
ça.
Qui remontent très loin.
Je les entends, mais même des parents qui me disent « Ah oui, mais moi, ça me chagrine parce que moi, je me souviens que mon frère, ma sœur, etc. » Donc c'est là où c'est important d'ailleurs de parler avec les enfants de ces choses-là. C'est que, j'allais dire par définition, on est jaloux de son frère et de sa sœur.
C'est normal.
C'est normal, on partage son père, sa mère ou simplement l'un.
Sa chambre.
Les gâteaux, la sortie, etc.
Mais c'est bon pour eux, pour leur développement. C'est le premier apprentissage du partage. Et donc, dans la vie, il faut partager beaucoup de choses. Hein.
Voilà, c'est ça. C'est la définition du partage, de la vie partagée, de la vie sociale, au fond. C'est le début de la vie sociale, de partager son camion, partager
son frère ou sa soeur,
sa dinette. Quoi. Donc, du coup...
On est obligé de s'entendre bien avec son frère,
non,
ça, qu'on leur dit aux enfants. C'est pas un truc qu'il faut leur inculquer. Pourtant, t'es obligé d'être gentil avec ta soeur.
Non,
hein.
On peut pas obliger quelqu'un à être gentil, mais on peut lui dire c'est normal que tu sois jaloux, c'est normal que tu sois pas content, d'autant qu'elle est petite, je m'en occupe beaucoup parce qu'elle a besoin de moi ou parce qu'elle est malade ou parce que plein de raisons. Donc tu peux être jaloux, mais c'est ta sœur et c'est ton frère et vous allez partager toute la vie le fait que vous avez été avec nous. Donc c'est normal, tu peux ressentir ce sentiment-là. Il y en a plein mais tu dois trouver une manière, vous devez trouver une manière d'être ensemble. C'est normal, comme ça.
Et en fonction de la place qu'un enfant peut occuper dans la famille, si c'est l'aîné, on est parfois dans des attentes un peu supérieures en disant, écoute, tu vas devoir prendre soin de ton petit frère ou de ta petite sœur.
Les grandes sœurs, on leur dit souvent, j'ai une petite maman. Ouais,
est-ce qu'on doit leur donner ce rôle ou au contraire, on leur met trop de pression et trop de responsabilité alors que finalement, ce ne sont que des enfants. Peut-être que la vérité est entre les deux.
Bah, c'est-à-dire, c'est ça, on peut leur donner ce rôle transitoirement à certains moments et le reprendre, j'allais dire. On peut donner le rôle parce que c'est comme ça, la vie c'est comme ça. Et puis parce que
Les grands se sont souvent occupés des petits,
c'est une
et c'est
reconnaissance
pas si mal que ça
de
non
la
plus,
place de l'aîné. Mais ça ne doit pas être une sorte de statut où on oublie justement les besoins. Bah, elle peut avoir aussi besoin de liberté, d'envie d'aller avec ses copines et tout ça. Donc ça doit être quelque chose de... de partiel et d'éphémère. C'est-à-dire que ça ne doit pas être le status qui définit la place de la grande ou du grand.
Alors on fait donc ce focus très complet aujourd'hui sur la famille. Et la famille, parfois, elle est recomposée dans ces situations de grand, hein, je précise, puisque le fait que ce soit recomposé, c'est parce qu'il y a une séparation, une histoire d'adultes qui sont responsables de ça. La première chose, vous dites, et vous l'expliquez bien dans le livre, avec de jolis petits dessins aussi autour de ça, c'est d'expliquer vraiment à l'enfant, et ça c'est fondamental, qu'il n'y est pour rien, il n'est pas responsable de cette histoire.
Alors j'insiste beaucoup parce que je l'entends à longueur de journée. Et j'allais dire, plus ils sont petits, plus ils sentent coupables. Alors les tout petits et les ados, ça c'est les deux âges. Les autres entre les deux, là, à l'école...
Ça passe un peu mieux, quoi.
Ça passe un peu mieux. Mais alors cette culpabilité, là aussi, que j'entends même longtemps...
Ils se sont séparés à cause de moi, quoi. Il y a
ouais,
un truc comme
je
ça.
Suis sûre. Et personne n'a jamais voulu l'entendre. Hein. Donc c'est vraiment cette notion de culpabilité des enfants... doit être parlé. Mais pour que les enfants ne ressentent pas trop de culpabilité, même si après il faut s'en occuper de la culpabilité, il faut donc dire clairement...
Il faut le verbaliser, c'est important.
Il faut clairement dire qu'on se sépare. Pourquoi on se sépare ? Et évidemment, ce qui les intéresse, au fond, c'est de savoir qu'on reste parents et pas que le couple se sépare. À la limite, ça, c'est moins grave pour eux. Donc, c'est ces deux niveaux-là qu'on doit bien dissocier.
Alors, l'enfant peut se retrouver dans un conflit de loyauté envers l'un de ses parents et c'est important qu'il sache qu'il n'est pas obligé, par exemple, d'aimer le nouveau petit copain de maman ou la petite copine de papa, mais par contre, qu'il doit impérativement le respecter.
Oui, c'est ça. C'est une erreur de penser qu'un enfant va... De toute façon, le premier mouvement d'un enfant, c'est de ne pas aimer sa belle-mère ou de ne pas aimer son beau-père, avec le sentiment que peut-être cette personne est responsable de la séparation de ses parents, même si c'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc, on sépare le niveau. Ok, tes sentiments, tu as le droit de ressentir ce que tu veux. Je comprends d'ailleurs que tu, spontanément, t'es pas beaucoup de sentiments positifs.
Il faut du temps pour s'attacher,
voilà,
parfois.
Il faut connaître, il faut s'attacher, etc. Mais par contre, c'est celle que j'ai choisie comme ma nouvelle compagne, comme mon nouveau compagnon, qui va vivre avec nous, qui va faire famille avec nous quand tu seras avec nous. Et donc, tu dois la respecter parce que c'est quelqu'un qui est de la génération parent. Quoi. Et c'est là où ça sert de bien comprendre la différence.
Et vous expliquez dans le livre que c'est souvent l'attitude des parents qui autorise ou pas justement l'enfant à s'attacher au beau-père, à la belle-mère. Comment faire pour que ça se passe au mieux ?
Eh oui, alors ça aussi, ils le disent beaucoup. Alors, les adolescents le verbalisent encore plus, mais un adolescent qui se dit « Oui, mais si j'ai des bonnes relations, si je sors me promener avec ma belle-mère, ça voudrait dire que j'ai oublié ma mère. » Parce que ma mère, pendant ce temps-là, elle est triste, ou
elle
mon
est
père,
seule,
ou seule, quoi, ouais. Mon père, etc. Et donc, c'est là où c'est important là, de dissocier autre chose, qui est mon rôle de mère ou de père et mon rôle de femme ou d'homme. Et à ce moment-là, bah oui, peut-être que je suis seule, mais je suis une femme, mais je suis un homme et je peux faire ma vie aussi. Et donc, toi, fais la tienne. Quoi.
Donc,
mais
l'autoriser pour ça, à s'attacher à l'autre aussi. Pour,
voilà. Oui, en tous les cas, c'est des places différenciées, c'est pas la même. Donc du coup, l'un, c'est pas l'un contre l'autre. C'est peut-être cette idée qu'on a dans la tête qu'un enfant, il ne peut s'attacher qu'à un homme à une femme. Non, pas du tout. Bien sûr que
l'attachement... La famille, elle est grande, parfois, elle s'élargit, elle se recompose.
La famille, elle est grande, l'attachement, il est infini. Hein,
on a le cœur élastique, vous dites dans le livre.
Bah oui, c'est ça, c'est pour les petits d'expliquer qu'effectivement, on peut aimer plusieurs personnes. Et l'un, le fait de m'attacher à ma belle-mère...
N'enlève rien à l'autre.
N'enlève rien à l'autre.
Et quand les parents se séparent, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que l'enfant, désormais, il va avoir deux nouvelles vies, une vie avec papa et une vie avec maman.
Et c'est ça. Et sauf que ça, les parents, ils n'ont pas l'expérience de ça. Enfin, certains l'ont.
On veut qu'il partage ce qu'il a vécu chez papa quand il n'était pas chez maman, mais on n'est pas obligé l'enfant de le partager. Hein, c'est ça.
Mais les enfants, ils ont des stratégies parce que eux, parfois, au début, ils ont besoin de faire des liens quand même entre ces univers. Donc, ils amènent des objets d'un endroit à l'autre et les adultes ne comprennent pas toujours quelle est l'importance de ces mots ou de ces objets. Mais bien sûr, on peut imaginer combien il faut respecter aussi le silence des enfants. Parce que les enfants, la plupart du temps, rapidement, ils vont cliver. C'est-à-dire qu'ils ne vont rien raconter dans un sens ou dans l'autre. Et le lien, c'est eux-mêmes. Donc, d'où l'importance de là aussi de séparer les mondes, mais de laisser les enfants trouver la manière de les relier à l'intérieur d'eux.
Très bien. Merci beaucoup, professeur Moreau, d'avoir été avec nous cet après-midi. Et donc, je conseille ce bouquin. Il a été testé et approuvé chez les Gomez, en tout cas, je peux le dire. Plein de jolies illustrations. Son titre, c'est « Quand ça va, quand ça va pas ». Leur famille expliquée aux enfants et aux parents, qui est paru donc chez Glénat Jeunesse. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique Les Bobos du quotidien, on va s'intéresser à votre sommeil et plus précisément à l'insomnie. Savez-vous ce que c'est vraiment et surtout quels sont les traitements les plus efficaces pour retrouver un sommeil de qualité? Le docteur Jimmy Mohamed va tout nous expliquer. A tout de suite sur Europe 1. Votre émission Santé Bien-être sans rendez-vous, c'est tous les jours, de 15h à 16h. On va passer à présent à notre séquence Les Bobos du quotidien. Savez-vous précisément ce qui caractérise une insomnie? À partir de combien de nuits d'affilée parle-t-on d'insomnie chronique et dans quel cas prescrit-on aujourd'hui des somnifères? Connaissez-vous leur risque d'ailleurs à ces médicaments? Notre journaliste Valentin Piovesan a été vous interroger sur le sujet. On écoute tout de suite son micro-trottoir.
L'insomnie, c'est le fait de ne pas trouver le sommeil.
Parfois même, on dort, mais c'est pas un sommeil réparateur.
Tu sais pas pourquoi, tu réfléchis alors qu'il y a rien, il faut que tu dors.
Là, en ce moment, oui, c'est un temps d'inquiétude lié au Covid. Je dors un petit peu moins qu'avant.
Il y a deux jours, j'ai pas compris. 4h du matin, je me suis réveillée, 5h, 6h, et puis je me suis endormie à 6h.
À partir du moment où c'est récurrent, vraiment toutes les nuits, pendant une longue période, là, il faut quand même penser à consulter.
Je pense que des anxiolytiques, du coup, c'est des choses qu'on peut consommer. Le fait de se détendre par des choses qu'on aime, du sport, des choses comme ça, ça peut nous détendre et ça peut du coup éviter et freiner l'insomnie.
Quand j'arrive pas à dormir et que ça fait très longtemps que j'arrive pas à dormir, je vais sur mon téléphone pour m'épuiser jusqu'à ce que vraiment mes yeux ils piquent et que là j'éteins mon téléphone et je dors.
Je sais que moi mon médecin m'a prescrit de la mélatonine, c'est un composant justement qui est censé être totalement naturel et présent déjà dans le corps.
Le corps a besoin de sommeil pour se régénérer, on a des cellules qui vivent et pour se régénérer elles ont besoin de se reposer.
Bon, alors il y a du bon, il y a du moins bon, Jimmy. S'épuiser sur le téléphone pour mieux dormir, je pense que vous n'allez pas valider. On va en parler. Alors, une insomnie, c'est quoi concrètement? Est-ce que d'ailleurs c'est un truc très très fréquent ou pas en France?
Alors, l'insomnie, c'est la difficulté à s'endormir ou à maintenir un sommeil. C'est-à-dire que ça va être affecté soit à la quantité, soit à la qualité. Vous dormez pas assez ou vous dormez mal avec une sensation d'être épuisé. C'est hyper fréquent, on pense que c'est un tiers de la population et 10% vont en souffrir de façon sévère et chronique et nécessiter souvent des traitements parfois inadaptés.
Alors à partir de quand on considère justement, vous dites qu'il y a quelques-uns qui sont chroniques, parce que bon, une ou deux mauvaises nuits, ça nous est tous arrivé pour du stress ou pour d'autres raisons, mais à partir de quand on devient insomniaque chronique?
Alors il faut bien comprendre déjà qu'avec l'âge, le sommeil est de moins en moins bonne qualité.
C'est un peu une fatalité ça. Ouais.
Et oui, il devient de plus en plus léger. La seule chose, ça va être notre capacité à vivre avec cette chose et normalement en vieillissant, on va s'accommoder de dormir un peu moins bien. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'on va parler de insomnie chronique lorsque vous avez ces troubles plus de 3 jours dans la semaine, pendant plus de 3 mois, et surtout, c'est qu'il va avoir un retentissement sur vos activités. Vous allez être moins productif, vous allez avoir un trouble de l'humeur, ça va mal se passer au travail, ou par exemple, vous allez faire un accident de voiture car vous êtes endormi, notamment au volant.
Alors comment on peut arranger ça? Peut-être avant de passer aux médicaments, il y a des choses dans notre hygiène de vie. Elle parlait des téléphones, genre regarder le téléphone pour s'endormir, c'est pas une bonne idée. Hein.
Et non, exactement. Alors il faut déjà savoir pourquoi est-ce que vous dormez mal. Souvent, on va vous donner le traitement pour vous faire dormir, mais sans comprendre quelle est l'origine du problème. Un exemple tout simple, lorsque vous êtes déprimé, vous avez des troubles du sommeil. On aura beau vous filer des anxiolytiques, tant que vous êtes dépressif, eh bien vous allez mal dormir. Et puis, il y a d'autres choses qui vont altérer la perception du sommeil. On passe 5% de notre temps éveillé. Entre chaque phase de sommeil, entre le sommeil lent et le sommeil profond avec le sommeil paradoxal, eh bien on va avoir un micro-réveil de quelques minutes. Et certains vont avoir cette perception de réveil et vont avoir une mauvaise nuit, sauf qu'en réalité, ils ont bien dormi. Ça veut dire qu'on n'est pas tous égaux face aux troubles du sommeil. Donc évidemment, il faut faire le ménage dans notre hygiène de vie, les écrans, les excitants, et puis faire en sorte qu'on ait une pression de sommeil suffisante, c'est-à-dire une activité importante. En période de télétravail, de confinement, on bouge moins, on sort moins, on est moins rythmé par les repas, les horaires,
la lumière,
et donc on va être un peu désynchronisé. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il faut d'abord comprendre pourquoi est-ce que vous dormez mal avant de vous donner des traitements.
Bon, il nous reste peu de temps, Jimmy, mais dans quelle situation vraiment on en vient à prescrire des somnifères?
Ça, c'est le médecin qui doit le décider, et ils doivent être le plus court possible, avec la plus faible dose.
Les gens
et
qui en prennent depuis des années, c'est mal, hein, ça c'est sûr.
C'est très mal,
il faut
le prendre 2 semaines au grand maximum. Au-delà, c'est qu'il y a un vrai problème et qu'il faut passer au-delà de ce traitement, car vous allez tomber dans une forme d'accoutumance, avoir les effets secondaires sans aucun bénéfice de ces traitements.
Très bien. Écoutez, on parlera d'autres solutions plus naturelles, éventuellement même des plantes une autre fois. Merci beaucoup, Jimmy, pour toutes ces précisions.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
La santé, le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15h. Pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints en studio par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui, on va parler d'un grand thème, à savoir quand faut-il se quitter? Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, que finalement, dès qu'un couple est plus parfait, c'est facile, hein, on se quitte. Alors que j'imagine que parfois, on se quitte un peu vite. Il y a quand même un temps où on peut dire qu'il faut s'accrocher.
Alors, je crois que c'est pas si facile que ça quand même de se quitter. Mais on est évidemment dans une société qui a sa pensée que dès que c'est défaillant, il faudrait se quitter, que de toute façon, la morale sociale ne va pas y voir quelque chose de négatif, puisque presque la majorité, notamment dans les grandes villes, sont des familles recomposées. Donc,
couple sur deux, je crois, divorce, hein, à peu
voilà.
près. Hein,
donc bon. C'est dire qu'on se dit que c'est même presque une nouvelle injonction, après l'injonction de devoir absolument résister, être tout seul.
Ne pas rester quand ça va pas.
Voilà, maintenant, il faut aller bon train, dans son plaisir, penser à soi avant tout, etc. Et puis, advienne que pourra pour le reste autour de soi. Donc, je crois que c'est ni l'un ni l'autre. C'est pas une obligation de rester ensemble, c'est pas non plus...
Mais il y a parfois des bonnes raisons de s'accrocher, quoi, c'est ça.
Mais oui, parce que de toute façon, il faut comprendre aussi pourquoi ça ne va pas. Et souvent, ça ne va pas pour les raisons pour lesquelles on a aimé l'autre, d'ailleurs. Donc, il y a des aspects qui ont attiré notre attention, qui est à l'origine aussi de notre difficulté dans le lien à l'autre. Et puis, il y a des moments dans la vie d'un couple où nous avons des enjeux différents, des projets différents. Alors, certains se faisant à deux, c'est beaucoup plus facile de se sentir dans la même énergie. Et puis, il y a des choses qui, parfois, nous font un peu aller chacun regarder un peu autre part. Notamment, je parle des projets professionnels qui vont attirer plus l'attention à l'extérieur du couple qu'au sein de la famille. Mais pour autant, est-ce qu'il faut se dire que parce qu'on ne regarde pas la même direction, parce qu'on ne veut pas tous les deux acheter une maison, un chien, un poisson rouge, eh bien donc c'est qu'on n'est pas fait pour être ensemble, alors qu'il y a des moments où l'être humain a besoin de se réaliser et le couple n'est pas là pour l'éteindre.
Ah, j'ai été vérifier vos chiffres, Mélanie. Vous avez dit un couple sur deux finit par divorcer. Bah, c'est vrai.
Bah oui, hein, je savais. Je donne des bons chiffres parfois.
Non, mais un vrai travail de journaliste, hein, bravo. Mais
non, mais ça, c'est connu, ça, quand même.
Mais ça me paraît tellement énorme. Mais est-ce qu'on peut se dire que la période de confinement et de Covid aura raison de beaucoup de couples? Est-ce que vous avez vu plus de souffrance que d'habitude? On a plus de mal à supporter.
On n'est que mercredi, hein, du troisième confinement.
Non, mais qu'on les voit tout le temps, tous les jours, là, on peut comprendre qu'on en est marre, mais est-ce que ça peut être un motif
on
de rupture?
On fera le bilan, ouais.
Alors, je crois que beaucoup de couples ont souffert, effectivement, pendant cette période-là, parce que, justement, il manque tous les à côté qui permettaient au couple de faire l'illusion d'une adéquation. Ceci étant, j'ai trouvé aussi qu'il y avait beaucoup de couples qui étaient revenus à l'essentiel, qui n'est pas nécessairement sexuel, justement. Et l'essentiel, c'était d'être ensemble, c'était d'avoir des projets ensemble, c'était peut-être d'être moins tourné sur l'image de soi, de ce que la société attend de soi et ce que j'attends de moi et de ce que j'ai bâti avec un autre que moi. Donc en fait, je
Donc
suis
il y en
pas...
a qui vont mieux dans ce contexte et puis d'autres chez qui ça
Alors
là,
y
ça
a,
dérape.
Il y en a c'est parti ouais. en vrille, notamment ceux qui arrivaient à jongler avec un amant, une maîtresse, etc. Là, tout d'un coup, se retrouvant l'un sur l'autre, c'est devenu très compliqué. Ceux qui arrivaient à jongler aussi avec des boulots qui les absorbent beaucoup et qui tout d'un coup se sont retrouvés
et
les yeux dans les yeux.
Des soirées au resto avec les amis et des machins,
voilà,
tout ça.
Où on fait beaucoup de bruit, beaucoup de trucs tout autour. Et du coup, évidemment, là, c'est la rencontre qui s'est avérée douloureuse. Et d'autres, au contraire, ça les a beaucoup plus unis. Ça ne veut pas dire que leur sexualité s'est libérée, bien au contraire. Souvent, elle s'est assagie. Mais en tout cas, le couple en sort grandi.
D'un point de vue général, donc Covid ou pas, quels sont les signes que là, pour le coup, il est quand même temps de se quitter? Il y en a quand même, j'imagine, à un moment donné, quand il n'y a vraiment plus d'amour du tout, plus rien à se dire ou que des engueulades.
Je crois qu'à partir du moment où on se fait du mal, on laisse l'autre nous faire du mal et par voie de conséquence, on lui fait du mal en le... parce que même laisser l'autre nous faire du mal, c'est faire du mal à l'autre, puisque c'est l'enfermer dans une idée assez monstrueuse de lui-même et de délire de toute puissance dans les liens qu'ils entretiennent. Donc je crois qu'il faut savoir aussi que souvent nous ne nous quittons pas par peur de l'énergie qu'il faut déployer, par peur de s'être trompé, de trouver pire, mais rendons-nous à l'évidence de la situation dans laquelle on est. Est-ce que vraiment... il y a quelque chose à en tirer, et s'il n'y a rien à en tirer, si on a évalué que ce n'est pas de l'autre, que ce n'est pas sa dépression, que l'on projette sur l'idée que c'est l'autre qui ne nous fait pas du bien, je crois qu'il est important de prendre son courage et aller vers la vie, parce qu'il faut être courageux aussi hein, pour se quitter.
J'ai un vieux dicton, dans l'amour prends ton temps, dans le divorce prends deux fois plus ton temps. C'est pour dire qu'il faut...
Parfois il nous sort de la sagesse de je ne sais où.
Non, mais c'est
ouais,
que
d'accord.
Parfois sur une engueulade, de l'impulsivité, on peut dire des choses qu'on regrette le lendemain et puis parfois se séparer un peu trop vite, il faut prendre le temps même dans la séparation.
Bien sûr, ça c'est certain.
C'est bon le dicton de Jamie
Moynette. Il est super, je l'adore. Mais de toute façon, je dirais qu'on se dit souvent des choses, on devrait d'ailleurs tourner vraiment cette fois notre langue dans notre bouche avant de parler.
Et de tweeter.
Et de tweeter les deux, exactement. Je sais, alors c'est peut-être pas que la langue dans la bouche, ouais. Aussi, je sais pas. Bon, le fait est que, effectivement, je pense qu'il faut savoir... réfléchir les choses et pas être sur simplement le pulsionnel, parce que sur le pulsionnel on peut dire tout et n'importe quoi, on peut du coup faire beaucoup de mal sur des propos que l'on ne ressentait pas en réalité, mais qui sont partis parce que un trop-plein, nous ne mélangeons pas nos colères et nos angoisses internes à projeter sur l'autre qui en devient le responsable. Prenons le temps de la mesure de
parfois,
ce qui se joue.
Un petit break. On en reparlera peut-être dans une autre chronique du break, si de la rupture provisoire.
Ouais, ce sera des breaks, c'est souvent des excuses.
Merci beaucoup, Catherine, pour tous ces conseils. Et donc, je vous dis à demain.